écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit, ici à Paris, 22h en temps universel.
24 heures en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en France. On va décortiquer ensemble pendant une demi-heure l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal, avec à la une l'opération cohésion d'équipe pour le gouvernement de Michel Barnier. Tous ses membres étaient réunis à Matignon ce vendredi pour un grand séminaire. On y était et on vous explique ce qu'il s'y est dit. 8 ex-ministres de la Santé alertent sur les conséquences inacceptables d'une réforme de l'aide médicale d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a laissé entendre cette semaine qu'il ne s'interdisait pas de prendre des dispositions pour la réformer. Vous entendrez l'une de ses voix contre cette idée. Au sommaire également, le revoir des Parisiens aux anneaux olympiques décrochés de la Tour Eiffel la nuit dernière. Et le PSG qui poursuit sa lancée en Ligue 1, victoire 3 buts à 1 ce soir face à Rennes. Réunion de rentrée pour le nouveau gouvernement à l'occasion d'un séminaire présidé par Michel Barnier. Il a réuni vendredi toute son équipe pour s'accorder sur la feuille de route qu'il va présenter ce mardi à l'Assemblée nationale. Avec un objectif pour lui, tenter d'asseoir son autorité déjà mise à mal par certains ministres dans un contexte budgétaire très contraint. Et vous avez suivi ce séminaire, Charlotte Turin-Tomaca.
Donner un cap et resserrer les liens, c'est dans cette optique que Michel Barnier réunissait ses ministres ce vendredi après-midi. Le Premier ministre veut que son gouvernement apprenne à se connaître et à travailler ensemble, nous disait un conseiller. Après un rapide point sur la situation économique et financière du pays par les deux ministres de Bercy, ils ont ensuite été répartis dans les salons de Matignon par groupe de 8, avec des voisins de table imposés. Tous les ministres sont mélangés, l'occasion de faire connaissance. « Il faut que je ressorte mon trombinoscope avant d'y aller », plaisantait une ministre avant de rejoindre ses camarades. Mais surtout, l'occasion de réfléchir pour faire sortir des idées fortes sur 5 axes. Immigration, niveau de vie, finances, services publics, transition écologique. Objectif, dégager des idées fortes pour alimenter la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et après ces ateliers de travail, c'est donc un pot qui était prévu pour les ministres afin de poursuivre cette familiarisation.
Un pot et une photo de classe auxquelles se sont ajoutés deux nouveaux ministres. D'abord, Charlotte Parmentier-Lecoq, nommée ministre déléguée aux personnes en situation de handicap, et puis Jean-Louis Thiériot, lui auprès des armées et des anciens combattants. Tous les deux ont été nommés cet après-midi, 6 jours après la composition officielle de l'équipe gouvernementale de Michel Barnier. Et ce gouvernement continue d'être critiqué de toutes parts. Et une des dernières sorties en date, c'est celle de François Bayrou. Le patron du Modem, le parti centriste, organise à partir de ce vendredi son rendez-vous politique en Bretagne. Et il n'a pas hésité à donner son opinion sur l'actualité politique de ces dernières semaines et sur le profil de l'équipe gouvernementale.
Il n'y a de chemin que si le gouvernement et les forces qui le soutiennent sont équilibrés. Que la droite de gouvernement, que le centre que nous constituons, et que la gauche de gouvernement, qui a des convictions démocratiques et qui les a manifestées au travers du temps, se joignent pour agir. Si l'on se contente d'une majorité et d'un gouvernement que j'appellerais latéral, d'un côté et pas de l'autre, alors je considère que les chances de succès en seront terriblement amenuisées. Parce que vous voyez bien les polémiques qui vont s'accrocher au budget, peut-être au changement de fiscalité. Tout ceci exige que nous nous unissions.
Et le gouvernement de Michel Barnier fait parler notamment pour cette idée émise par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Issu du parti de la droite conservatrice, Les Républicains, il a fait part en début de semaine de sa volonté de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, pour la remplacer pour une aide d'urgence pour les étrangers, une proposition qui divise de tous les bords. Et ce jeudi, 8 anciens ministres de la Santé s'en sont inquiétés dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Selon eux, restreindre ou supprimer l'AME aurait des conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques inacceptables. Et parmi les signataires, le dernier ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, en poste de février à septembre.
L'AME, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, dont on sait qu'il est utile. Il est utile d'abord pour des raisons de santé publique, parce qu'il permet de prendre en charge les personnes qui arrivent sur le territoire français, qui s'en servent dans des situations irrégulières, mais qui peuvent arriver avec des pathologies, avec des maladies et des infections, ou même développer, une fois arrivé en France, des maladies, et qu'il faut pouvoir soigner. C'est d'abord la grandeur du système français, c'est de soigner tout le monde. Et puis, de manière plus égoïste, quelqu'un qu'on ne soigne pas tout de suite, c'est quelqu'un qu'on retrouvera quelques mois plus tard à l'hôpital, aux urgences, et dans un état avancé de maladie qui sera évidemment très, très différent. Et donc, ça sera une charge de toute façon, si on raisonne sur le plan économique, plus lourde pour la société que si on prend les gens, bien sûr, le plus tôt possible. Les pays qui, je pense à l'Espagne, qui avait quelques années avait supprimé un dispositif qui était équivalent, ben, s'en est mordu les doigts parce que la charge était évidemment avec le temps beaucoup plus forte pour les hôpitaux. Ils l'ont constaté et ils sont revenus en arrière.
En bref, les obsèques de la jeune étudiante philippine se sont tenues cet après-midi à la cathédrale de Versailles, une semaine après un meurtre qui suscite émotion et débat sur le parcours du suspect condamné pour viol et en instance d'expulsion. Quelques 2800 personnes ont assisté à ces obsèques dans et à l'extérieur de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Cette information à présent à minuit 6 à Paris qui nous rappelle que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont définitivement terminés et que la capitale française retrouve son semblant de quiétude. Les anneaux olympiques, symbole donc de l'olympisme accroché sur la dame de fer pour les Jeux de Paris 2024, ont finalement été décrochés dans la nuit de jeudi à vendredi. Une autre structure plus légère et plus résistante doit y être installée sur la tour Eiffel pour y rester jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une décision que Savin Yetman Eiffel, descendant de Gustave Eiffel, ne comprend pas.
On a retiré les anneaux, donc pourquoi est-ce qu'on va venir les remettre après? C'est un petit peu étrange. Ce qui est important pour nous, c'est que la tour, elle a été conçue avec des formes très, très pures par Gustave Eiffel, avec une perspective qu'on voit depuis le Trocadéro, qui est connue dans le monde entier. Et mettre ces anneaux, de gros anneaux, sur la tour de manière permanente, nous semble changer la forme du monument et ne se justifie pas à nos yeux, puisque la tour Eiffel a été construite bien avant que Pierre de Coubertin ne relance les Jeux Olympiques modernes. Il n'y a aucune connexion historique ou logique, à part le fait qu'elle ait servi, comme d'autres monuments d'ailleurs, ou d'autres endroits dans Paris, de porter des anneaux olympiques pendant les Jeux.
Des propos recueillis par Sylvie Coffi pour RFI. On ouvre à présent notre page sport avec d'abord du football et l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Et le PSG qui conforte sa place de leader du championnat. Les Parisiens qui ont battu ce soir Rennes 3-1 avec un excellent Bradley Barcola. Écoutez sa réaction au micro de nos confrères de beIN Sport.
On a beaucoup donné. Je me sentais bien aujourd'hui. Donc j'ai pu donner ce que j'avais à donner et je suis content du résultat. On a beaucoup pressé, on a défendu ensemble, offensivement on a attaqué tous ensemble. Donc je pense que sur la fin on était un peu plus fatigué, c'est pour ça qu'on a commencé à prendre des occasions. Mais sinon on a fait un bon match aujourd'hui. Franchement, quand on joue comme ça tous ensemble, là, on est inarrêtable.
Et sur les 3 buts parisiens, Bradley Barcola en a marqué 2. Ce qu'on retient aussi ce soir, c'est la victoire d'Auxerre face à Brest. 3-0. En tennis à présent, Caroline Garcia a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux se mettre un terme à sa saison 2024. À bout de nerfs, après une année loin de ses sommets, elle veut faire le vide pour mieux revenir, Baba Cardiara.
Caroline Garcia a dit stop. À 30 ans, la joueuse veut s'éloigner de la frénésie du circuit mondial du tennis féminin, un rythme qui l'a menée à avoir, selon ses propres termes, un état d'esprit toxique. Dépressive, Garcia accumule les crises de panique, les larmes avant les matchs et les périodes d'anxiété dues à l'épuisement. Le plaisir n'y est plus et elle n'arrive pas à se détacher de ses résultats décevants. Depuis avril, Garcia a été incapable d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans le moindre tournoi et ses échecs ont eu un effet dévastateur sur son moral au quotidien. Numéro 4 mondial en juin 2023, elle broie du noir avec une dégringolade à la 36e place du classement mondial. Face à ce constat, l'heure est venue pour elle de rentrer dans sa bulle plus d'un mois et demi avant la fin de saison. Objectif, prendre du temps de repos, se remettre les idées et l'épaule en place, puis revenir début 2025 avec dans le viseur le premier grand chelem de l'année, l'Open d'Australie.
Des cours de tennis, on va au cinéma puisqu'est sorti en salle le film Emmanuel, ce mercredi, 50 ans après la sortie du long métrage de Just Jaikin, un remake donc proposé par Audrey Diwan, remake qu'Elisabeth Le Quiré a pu voir pour nous.
Il en fallait du culot pour vouloir remettre au goût du jour un navet érotique des années 70. Cet Emmanuel 2024 occupe un poste haut placé dans une société hôtelière, voyage pour son travail de palace en palace et choisit à sa guise ses amants et amantes avec un troublant mélange d'appétit et de froideur. Le sujet est posé. Pour Audrey Diwan et son actrice Noémie Merlant, il s'agit d'explorer les zones troubles du plaisir avec une héroïne résolument féministe, en d'autres termes, maîtresse de son désir. Le cadre, c'est un 5 étoiles de Hong Kong, écrin parfait pour des scènes supposément torrides, en réalité aussi lisses que des spots publicitaires. Dehors, l'orage gronde, l'orgasme est encore loin. En lieu et place de l'envoûtement promis, la mise en scène génère un ennui poli. Emmanuel ne sort jamais de son corset théorique, glacé et sans chair, comble du paradoxe pour un film qui entend subvertir les codes du genre érotique.
Elisabeth Le Quéré, il est 10:30 ici à Paris.
24 heures en France, Stéphane Genest.
Et on l'évoquait dans le journal, hein, il y a quelques secondes, de ce séminaire gouvernemental autour de Michel Barnier, le Premier ministre, ce vendredi. Il a réuni son gouvernement pour s'accorder sur la feuille de route qu'il va présenter donc ce mardi à l'Assemblée. Et parmi les priorités, évidemment, c'est le budget pour l'année 2025. Et une chose est sûre, en tout cas, c'est que le déficit français est important, autour de 6% du PIB. On a également appris que la dette augmentait encore. Elle est aujourd'hui de 3 230 milliards d'euros. On en parle avec Clara Léonard, docteur en économie, cofondatrice et directrice générale de l'Institut Avant-Garde. Elle était l'invitée d'Anne Cantner dans RFI Midi.
Comment est-ce que vous expliquez une envolée pareille ?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette publique des pays développés depuis les années 70 a significativement augmenté. Donc, c'est une tendance vraiment générale. Après, dans le cas spécifique de la France, il y a eu une série de crises avec des boucliers tarifaires qui ont été plutôt généreux. On a décidé d'être plutôt dans une logique de soutien.
Et puis, je comprends ce que vous dites, on paye encore les dépenses qui ont été effectuées au moment de la pandémie de Covid ?
Voilà, c'est ça. Il y a eu une accumulation et puis ensuite, on a aussi beaucoup baissé certains impôts, mais sans que ce soit financé. Mais alors, pour revenir sur le déficit, alors en effet, il faut se préoccuper du déficit et prendre des mesures à la fois de nouvelles économies et dégager de nouvelles recettes. Alors vraiment, ça me paraît irréaliste de ne pas faire les deux en même temps. On ne peut pas se le permettre. Mais alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Alors, sur le plan des économies, il y a plein de gisements. Donc, par exemple, vous avez un rapport de l'Inspection générale des finances qui a examiné les aides aux entreprises. Il y a jusqu'à 10 milliards à dégager en réduction, les réductions des niches fiscales, etc. Donc, il y a quand même une série de pistes sur lesquelles nos institutions, nos think tanks, etc. travaillent. Et sur le plan des recettes, vous pourrez imaginer par exemple un rehaussement de la taxe sur les billets d'avion. C'était une proposition de la Convention citoyenne sur le climat. Ça peut rapporter jusqu'à 5 milliards. Une taxe sur les rachats d'actions. Et bien sûr, alors il y a le débat actuel sur la mise en place d'un impôt exceptionnel. Alors, il faudrait que ce soit sur les patrimoines financiers les plus élevés, que ça ne touche pas les classes moyennes. Et ce qui me semble important, c'est également d'arrêter les baisses d'impôts non financées. Alors, par exemple, si vous prenez la taxe d'habitation, c'était un rendement de 20 milliards et ça nous a cruellement manqué lorsqu'on a eu un déficit pour 2023 qui ne respectait pas la prévision initiale du gouvernement.
Ces baisses d'impôts qui ont été mises en place par le gouvernement précédent, vous expliquez qu'elles ont mené en partie au moins à la situation actuelle. Ça n'était pas prévisible, les conséquences de ces baisses d'impôts ?
Alors, à partir du moment où on fait des baisses d'impôts non financées, oui, c'est prévisible. Après, il y a aussi des économies à faire, donc c'est un peu des deux. Le message que j'aimerais porter quand même, c'est qu'il n'y a pas de raison de paniquer à très court terme. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que ce discours sur la dette ne doit pas nous mener à oublier certaines dépenses, ce que j'appelle des dépenses existentielles, que nous devons effectuer, notamment les dépenses de transition écologique. Parce que oui, il y a la question de la réduction du déficit, mais en plus, et c'est ça qui est difficile, hein, on doit dégager absolument des fonds pour financer la transition. Alors, vous avez le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui chiffrait à 33 milliards d'euros par an, en plus de ce qu'on fait déjà, les dépenses pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions. Et en fait, si c'était plutôt en plus une borne basse, parce que ça ne tient pas compte des dommages, des conséquences sociales de la transition, ou encore des dépenses d'innovation qu'on doit faire. Voilà, donc en fait, c'est C'est essentiel parce qu'en fait, si vous n'effectuez pas ces dépenses, ça pourrait avoir un impact bien plus important à long terme sur la soutenabilité de la dette. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair dans le débat public. C'est pas simplement le niveau de dette sur PIB dans l'absolu. Vous avez des pays qui ont des niveaux de dette sur PIB qui sont très élevés, par exemple le Japon, hein, 250% de dette sur PIB, et qui ont une dette tout à fait soutenable, c'est-à-dire que la probabilité que ce pays fasse défaut est faible.
Et il y a plein de facteurs.
Pardon ?
C'est différent en France ?
Alors, en France, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on a une probabilité très forte d'explosion de la dette publique et de défaut, parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui jouent sur cette probabilité, sur cette soutenabilité de la dette, qui ne sont pas simplement juste le déficit public. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc déjà, à quoi sert notre dette ? Donc, qu'est-ce qu'on finance ? Est-ce qu'on finance des dépenses d'avenir, etc., ou bien trop de dépenses de fonctionnement ? Et puis ensuite, plein de facteurs, en fait, plus qualitatifs et plus difficiles à saisir. Par exemple, alors, et puis c'est là que c'est un peu plus sensible, la stabilité politique, la crédibilité de nos institutions, et d'autres facteurs comme, en fait, l'appétence des marchés financiers pour les actifs dits sûrs, c'est-à-dire souvent les dettes souveraines des pays développés, comme il y a un déficit mondial de ces actifs sûrs, en fait, elles vont aller naturellement vers ces dettes. Et puis aussi, en fait, des choses assez techniques. Hein. Mais est-ce que vous vous endettez dans votre monnaie ? À quelle maturité ? Et puis, bien sûr, un dernier point à mentionner qui est très important, c'est que la France n'est pas seule. Hein. La France fait partie d'une union européenne avec une banque centrale, aujourd'hui la BCE, qui est très crédible et un certain nombre de boucliers qui la protègent.
Clara Léonard, docteur en économie, cofondatrice et directrice générale de l'Institut Avant-Garde, elle était l'invitée d'Anne Kontner dans RFI Midi. Un entretien que vous retrouvez évidemment sur notre site RFI.fr. Et à minuit 16 ici à Paris, on s'interroge. Quel point commun entre Stromae, Edith Piaf, Aya Nakamura, Charles Aznavour ou encore le groupe guadeloupéen Kassav ? Alors évidemment, ils sont tous chanteurs ou chanteuses, mais surtout, ils font partie des artistes francophones les plus connus à l'étranger. Et c'est justement ce thème qu'a choisi pour sa première exposition temporaire la toute nouvelle Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, c'est au nord de Paris. Exposition baptisée « Une chanson qui nous ressemble », un titre emprunté aux feuilles mortes de Cosma et de Prévert. Visite guidée avec Edmond Sadaka.
Sur près de 400 mètres carrés, l'exposition explore des thématiques aussi diverses que le cabaret, la rue, le musical ou le dancing. Impossible par exemple de passer à côté du groupe guadeloupéen Kassav qui a conquis la planète avec le zouk et qui a fait entendre au monde entier la langue créole francophone. De Kassav, on découvre ici des objets rares, comme des costumes de scène, des manuscrits ou des instruments de musique. Et si l'on ne trouve rien sur des artistes comme Brassens ou Johnny Hallyday, c'est voulu, comme l'explique Paul Rondin, le directeur de la Cité internationale de la langue française. C'est lui qui a eu l'idée de cette exposition.
J'ai trouvé que la chanson était, oui, le meilleur vecteur pour raconter ce qu'était cette langue. L'idée n'était pas du tout celle de faire une histoire de la chanson française, mais au contraire de montrer comment cette chanson a pu, à travers le monde, sensibiliser les gens.
Ici, on déambule avec un casque sur les oreilles dans lequel se déclenchent des extraits musicaux qui correspondent aux étapes du parcours. Et c'est l'occasion de constater que les artistes féminines occupent presque tout l'espace car ce sont elles les plus plébiscitées à l'étranger. Le journaliste Bertrand Dical est le commissaire de l'exposition. Il n'oublie pas ce jour où il a commencé à dresser des listes d'artistes pour faire sa sélection.
Je fais une première liste, évidemment, Gréco, Aya Nakamura, Françoise Hardy, Edith Piaf, Céline Dion, évidemment. Et bien que des femmes. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive au 10 ou 12e nom, et qui est le nom de Charles Aznavour. C'est-à-dire que partout dans le monde, ce sont des femmes qui ont porté cette langue dans la culture populaire. Les chanteuses françaises ont porté au prix de millions de femmes le désir de vivre librement. C'est non seulement quelque chose que j'ai appris avec cette exposition et que je suis très très fier d'avoir essayé de faire paraître.
Une chanson qui nous ressemble, c'est l'occasion aussi de faire des découvertes, comme la chanteuse Clémentine, quasi inconnue en France, mais adulée au Japon, où elle représente la quintessence du style français.
Visite guidée de l'exposition Une chanson qui nous ressemble avec Edmond Sadaka. Exposition à voir jusqu'au 5 janvier 2025. Vous écoutez 24 heures en France sur RFI, il est minuit 20 à Paris, 9h20 à Nouméa. Votre journal Les Outre-mer est à la une. Après plus de 4 mois de suspension, le réseau de transport en commun du Grand Nouméa annonce une reprise de service pour mardi prochain. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Faut-il le préciser, ce ne sera pas tout à fait comme avant un certain 13 mai. Il n'y aura plus que 12 lignes contre 30 auparavant et ce sera surtout un tout petit peu plus cher pour les usagers. Hugues Georgelin est le directeur adjoint du SMTU, syndicat mixte de transport urbain. Il répondait à la mi-journée en direct aux questions de Claudette Tchoupit.
Nous sommes très contents de pouvoir reprendre nos lignes au 1er octobre, enfin, sur un réseau adapté, je suis obligé de le préciser. Ça ne pourra pas être le même réseau que nous avons connu avant le 13 mai, parce que les émeutes étant passées par là, nous avons eu pas mal de cataclysmes d'un point de vue des finances publiques, qui, je le rappelle, subventionnent 70% du prix du transport pour permettre aux usagers de payer le tarif le plus modique possible. Donc ça, c'est une chose qui, malheureusement, évolue négativement, puisque nous allons pouvoir évoquer effectivement cette hausse de la gamme tarifaire. On a essayé de proposer d'ailleurs des mesures un petit peu correctives pour éviter que cette hausse soit trop sèche. Pareillement, en termes de services, nous étions à 30 lignes auparavant. Nous avons obligés de passer à 12 lignes sur les axes principaux qui permettent à la fois d'être les plus capacitaires, pour permettre au maximum de gens de pouvoir se déplacer, mais surtout en toute sécurité.
C'est une scène qui n'étonne plus grand monde à Mayotte. Une embarcation aussi vétuste que surchargée s'approche d'une plage et y débarque quelques malheureux, partis bien loin de chez eux à la recherche d'un improbable lendemain. Ce vendredi matin, cela s'est passé dans le sud de la Grande Terre. Reportage Taslima Abdouhamza.
Il est encore tôt ce matin sur la plage de Mtsamoudou, quand Tinkwasa Kwasa vient déposer une dizaine de passagers épuisés. Leurs regards se croisent avec ceux des pêcheurs et des habitants, surpris mais résignés face à une situation qu'ils connaissent trop bien. Ce qui nous dérange, c'est que les migrants arrivent comme ça tous les matins. D'autres débarquent sur cette même plage. On remarque juste quelques traces de pas, des vêtements abandonnés ici et là, des chaussures. On en conclut qu'un autre Kwasa a accosté. On aimerait que ces arrivées s'arrêtent, car c'est une petite île ici. Parmi ces migrants, des femmes et des hommes, principalement originaires de Somalie et de l'Afrique, des Grands Lacs. D'après les habitants, la plupart de ces clandestins ont pu s'enfuir à l'arrivée des premiers pêcheurs et ont disparu dans les collines avoisinantes. Après l'intervention de la gendarmerie, les migrants ont été pris en charge, mais leur avenir reste incertain. Certains seront probablement conduits vers des centres d'accueil ou des hôpitaux si leur état de santé l'exige. D'autres seront interrogés pour déterminer les circonstances de leur traversée et tenter de retracer leur parcours.
On termine avec cette découverte inquiétante à Marie-Galante. Les chercheurs de l'Université des Antilles ont mis en évidence une faille qui traverse le nord de la Grande Galette. Si cette faille venait à rompre, elle pourrait déclencher un séisme, voire même un tsunami. Peggy Robert, la première Guadeloupe.
Il y a 18 ans, des chercheurs de l'Université des Antilles découvrent des centaines de petites fractures dans l'eau autour du morne Piton, au nord de Marie-Galante. Grâce à un robot sous-marin, ils filment ces fissures. Mélodie Philippon est enseignante-chercheure au département de géologie de l'Université des Antilles.
Ce robot se balade sur une surface qui est un peu plane. Cette surface, elle est affectée par des fractures, des toutes petites fractures qui déforment le sédiment qui est en train de se déposer. Donc ça atteste que ces fractures, elles sont très jeunes. Donc ça atteste de l'activité de déformation récente. Le robot descend le long de la faille jusqu'à 200 et quelques mètres. Ce mur de faille fait une centaine de mètres.
Des fractures jeunes sur une longue faille, Mélodie Philippon a modélisé le risque de séisme et de tsunami si cette faille venait à rompre.
La longueur totale de cette faille, c'est une cinquantaine de kilomètres. Ce genre de faille peut générer des séismes d'une magnitude supérieure à 6 si elle venait à rompre.
Trois autres grandes failles ont été détectées à proximité de la Guadeloupe. Les chercheurs doivent encore sonder et photographier les sols et l'océan pour en savoir plus.
Fin de cette édition. Bonne soirée, bon week-end.
Merci beaucoup Benoît Ferrand. Très bonne soirée et bon week-end à vous.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur la contraception, Caroline Paré.
Noël Caillercy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, oncosexologue et sage-femme à Paris. À qui s'adresser pour parler de contraception ?
Un professionnel de santé, tout d'abord. Chacun a la possibilité soit de rencontrer un médecin traitant, soit une sage-femme, soit un gynécologue, ou encore pour les hommes, un urologue également.
Alors, comment se déroule une première consultation pour choisir un mode de contraception ? Est-ce qu'il y a une procédure, un déroulé classique ?
Tout d'abord, lorsque je reçois une patiente, je lui demande pourquoi elle souhaite avoir la contraception. Quel est son mode de vie ? Est-ce qu'elle voyage ? Est-ce qu'elle a tendance à oublier ? Donc, en fait, ses habitudes de vie. Est-ce qu'elle a l'habitude d'oublier en général ? Est-ce qu'elle a aussi un traitement ? Après, pour le volet strictement médical, je fais une anamnèse, traduction. Donc, ça veut dire que je fais un petit questionnaire où j'essaie de connaître ses antécédents médicaux, si elle a un traitement en cours, ainsi que dans la famille, s'il y a eu des maladies cardiovasculaires et autres.
Et il y a des fois, parfois, un examen sanguin ?
Pour une première contraception, en fonction des réponses qui seront données donc à ce petit questionnaire, un examen sanguin peut être réalisé, puisqu'il y a aussi un examen clinique. Mais d'office, il ne faut pas que ce soit un frein.
Merci Noël Caillercy. Aujourd'hui, dans notre émission Questions de femmes, on va parler de l'alimentation santé et alimentation plaisir. Manger sain, équilibré, mais aussi gourmand. Vos questions, vos témoignages au 33 7 61 18 46 41. Priorité santé, c'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et en podcast à toute heure sur l'appli RFI Pure Radio.
Rendez-vous est donc pris, Caroline Paré. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française. Aux manettes ce soir, à la réalisation, Anaël Lenoé, à la rédaction en chef, Loïc Bussière. Merci à eux deux. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est dans un peu plus de deux minutes maintenant. Afrique Soir, présenté par Zéphirin Kouadio, on ira au Soudan, puisque pour la première fois depuis le début de la guerre, il y a 17 mois, l'armée a lancé une offensive majeure avec l'objectif de reprendre Khartoum. Mais pour l'instant, la bourse. Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine une belle semaine sur une hausse de 138 points et atteint un nouveau record à 42 313. L'indice du Nasdaq cède 71 points et termine à 18 120. L'euphorie dans l'ensemble continue car les signaux donnés par l'économie américaine sont compatibles avec le scénario idéal rêvé par les marchés. Ce scénario est celui d'une inflation qui aux États-Unis continue de faiblir, sans pour autant que la consommation recule trop, ni que le chômage n'augmente trop non plus. On apprend aujourd'hui que la mesure préférée de l'inflation, du point de vue de la Fed, n'a été au mois d'août que de 0,1%. Dans le même temps, les dépenses de consommation des Américains ont augmenté de 0,2% après un bond de 0,5% au mois de juillet. La consommation aux États-Unis est favorisée par des hausses de salaires qui ont atteint 0,5% au mois d'août. En septembre, l'indice de la confiance des consommateurs américains, par ailleurs, remonte au plus haut depuis 5 mois. L'euro retombe à 1,1165 $. Le baril américain de pétrole reprend 1% et revient à plus de 68 $, et ce en réaction au bombardement israélien à Beyrouth. Parmi les grands noms, Bristol Myers Squibb avance de près de 2%. Le régulateur fédéral américain autorise la commercialisation de son nouveau médicament contre la schizophrénie. Le Dow Jones grimpe de 0,3% ce soir et établit un nouveau record. Le Nasdaq cède 0,4%. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow Jones gagne 0,6% et le Nasdaq grimpe d'1%.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Il se présente comme un média d'information et de formation sur les enjeux écologiques et il mise sur les solutions. 2050 Now est un média adossé au groupe Les Échos Le Parisien. Il diffuse des vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube, mais aussi des newsletters. Aude Baron, sa rédactrice en chef, est mon invitée dimanche à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.